Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition, nouvelle émission de 100% rugby. Comme chaque mercredi, vous en avez l'habitude. Maintenant, on parle surtout national, fédéral, régional, rugby amateur et semi-pro, et ce jusqu'à 19h et en direct, mais aussi quand vous le souhaitez sur vos plateformes de podcast préférées avec la team du mercredi. Aujourd'hui, avec notre consultant numéro uno, Yann Blanchard, et le président du club de rugby de Saint-Pé, Mickaël Guérindien. Salut à tous les deux.
Bonsoir.
Et merci. Il va à peine te dire bonjour, il venait de se curer le nez, il y a du boulot quand il se cure le nez.
T'auras le temps du sommaire pour ça, il n'y a pas de souci, parce que c'est un gros sommaire, il y a plein d'invités autour de cette table ce soir. On va parler de Fédéral 1, une qualification en vue des quarts de finale pour Mauléon. Et pour cela, ils devront remonter 4 points face à leur adversaire gruissant, un match qui sent la poudre et qui aura lieu en sous la Marius Rodrigo. Pour en parler avec nous, le président de Mauléon, Benyat Kehaï, nous rejoindra. Saison terminée, en revanche, en National 2 pour l'Anglet Olympique, déjà tournée vers la prochaine saison. Une saison qui va s'inscrire d'ailleurs dans la continuité, en tout cas avec le staff Anglois, puisque le trio Anthony Biscay, Sébastien Fauquet et Jordi Bourda vont rester aux commandes après cette belle saison terminée en quart de finale. Et d'ailleurs, Anthony Biscay est avec nous ce soir. Salut Anto.
Bonsoir à tous.
Et merci d'être là. Saison également terminée pour Asparin, le Asparin AC de Sébastien Rouette après la défaite à la dernière seconde en barrage contre Grenade. Et maintenant, pour les Aspandards, on posera la question au coach Sébastien Rouette avec nous également ce soir. Salut Sébastien.
Bonsoir.
Et merci d'être là. Il y aura les infos du jour à suivre évidemment, avec les noms dévoilés de certains futurs investisseurs du Biarritz Olympique, les précisions à suivre de Thomas Vinclair. Bien sûr, le qui peut battre ce soir avec en jeu deux places pour la rencontre Aviron Bayonnais Perpignan à Jean Daugé le 15 mai prochain. Un qui peut battre qui s'annonce épique ce soir au vu de l'équipe qui est autour de la table. Et puis ensuite, on partira au Stade Ibusti, direction Mouguère, puisque le week-end prochain, ça va vraiment être la guerre là-bas. L'US Mouguère accueille les finales régionales Nouvelle-Aquitaine sur les catégories cadets et juniors. Des finales, certes, mais des derbies surtout. Et nous sommes ce soir pour en parler avec le président Mouguertard, Philippe Larue. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Et merci d'être là avec nous pour évoquer ce qui sera sans nul doute un beau moment de rugby ce week-end à Mouguère, mais aussi parler quand même de l'excellence de la formation basque.
France Bleu Pays Basque, 100% rugby, avec David Talek.
Et avec beaucoup de monde, donc autour de la table, Yann Blanchard, Mickaël Guérindien, Anthony Biscay, Sébastien Rouette et Philippe Larue. Dans quelques instants, nous rejoindra Benyat Kehaï pour parler des quarts de finale de Fédéral 1 du côté de Mauléon. Mais d'abord, on va commencer avec l'Anglet Olympique, déjà tourné donc vers la prochaine saison, avec le trio Biscay, Fauquet et Bourda qui restera aux commandes. Après cette saison terminée en quart de finale, on va peut-être faire un petit retour d'ailleurs sur cette saison avec toi, Anto, et ce que t'en as pensé, de comment tu l'as vécu de l'intérieur, tout simplement.
Ouais, ben c'est une saison où on voulait faire mieux que l'année dernière, c'est-à-dire ne pas se maintenir sur la dernière journée. C'est une saison qui a été assez régulière, puisqu'on a eu une défaite à domicile en début d'année contre le futur finaliste Langon, qu'on avait réussi à rattraper par la suite à l'extérieur. Et puis un bon mois de janvier qui nous permet finalement de pouvoir viser les qualifiables et de se maintenir un peu plus tôt que prévu. Et cerise sur le gâteau, donc cette qualification et puis cette victoire en huitième du côté de Nîmes. Donc voilà, un peu de frustration puisqu'on perd en quart de finale du côté de Rennes, où on avait la sensation qu'on pouvait faire mieux avec un fait de match, voilà, qui nous permet pas de gagner, mais forcément beaucoup de satisfaction sur cette saison.
Yann,
oui, non, petit retour sur le quart de finale, ça a été avalé par toi, par les joueurs, il y a pas trop eu de déception.
Bah, avalé, oui, parce qu'il y a des choses quand même plus graves, mais c'est vrai que finalement on se prend en jeu, hein, on aurait perdu du côté de Nîmes, ben voilà, on se serait arrêté et puis on n'aurait pas eu beaucoup de frustration. Non, on s'était pris au jeu et clairement, vu qu'il y a eu match et qu'on aurait pu l'emporter, ouais, je pense que il y a une grosse frustration, mais vu qu'on a un groupe qui est assez jeune, ben ils ont peut-être pris conscience qu'ils avaient la qualité pour exister réellement à ce niveau-là, donc j'espère qu'ils vont garder cette petite frustration pendant 2 mois avant qu'on reprenne.
Votre prolongation a été annoncée hier, au-delà de vous, les joueurs, la majeure partie a dû être sondée, je pense, ça va continuer avec à peu près le même groupe.
Oui, bon, après ça communique parce que c'est, voilà, parce que c'est la mode qu'il faut communiquer, mais bon, c'est juste la simple continuité, comme ce qui se fait tout simplement dans ce club depuis toujours, hein, c'est voilà, on va continuer, les joueurs vont rester parce que la majorité sont très jeunes et s'entendent bien entre eux, et puis forcément quand tu fais une belle saison comme ça, ça donne envie aussi aux plus anciens de continuer, donc tout naturellement on va passer à la saison suivante avec la, le même effectif.
Question de Mickaël Guérindien qui voulait intervenir.
Non, il n'est pas libre. Voilà.
C'est moi, il a déjà re-signé. Hein.
Est-ce que tu as hésité? Est-ce que tu as penché le pour et le contre? Ou c'était d'office pour toi une logique de repartir sur une année?
Non, c'est vrai que le club voulait se positionner rapidement. Enfin voilà, au courant mars, quand on savait qu'on allait se maintenir, mais qu'on n'était pas sûr de se qualifier, le club voulait pouvoir annoncer quelque chose. Voilà, si la saison s'arrêtait après le dernier match de championnat. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était quand même assez dur de se projeter parce que quand même, ça fait quelques temps qu'on y est. Et donc voilà, mais finalement la qualification arrivant et l'envie de continuer finalement avec Seb Fauquet qui est mon ami et avec qui ça se passe super bien. Voilà, la peur forcément de faire la saison de trop parce que égoïstement c'est plus facile d'arrêter en partant sur un quart de finale et de dire voilà de dire merci et de partir voilà la tête haute entre guillemets. Le risque c'est de faire celle de trop et de finalement quitter le club après 10 ans au club sur une saison un peu moins réussie et voire complètement ratée, mais je crois énormément au groupe que l'on a et encore une fois l'amitié que j'ai envers Seb me donnait très envie de continuer.
Justement, la discussion, ça a été directement les deux ou rien. Enfin, vous avez discuté avec Seb ou Seb était partant dans tous les cas?
Ben, je pense que Seb était partant si on continue ensemble. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand t'as parlé de qu'on continue les deux, il y a Jordi aussi qui avait nous. On est loin d'être un staff pléthorique ou quoi que ce soit. On est deux entraîneurs, mais aujourd'hui Jordi fait totalement partie de l'aventure sur la semaine parce qu'on a la chance d'avoir un prépa qui a tous les entraînements et si on a réussi finalement avec peu de joueurs en quantité à durer sur la longueur, c'est parce que Jordi fait un super boulot et nous a permis de. Voilà, aujourd'hui, les préparateurs physiques prennent énormément de place et il a cette intelligence d'accompagner, d'être au service du sportif et de bien comprendre aussi qu'il a des amateurs et de pas leur taper dessus toute la semaine. Donc voilà, si on a réussi à aller loin, c'est grâce à lui aussi et c'est important aussi qu'il reste avec nous.
Et pour la saison prochaine, justement, est-ce que vous restez sur les mêmes objectifs que pour cette saison-là ou on essaye quand même d'aller viser un petit peu plus haut pour l'Anglet Olympique?
Mais non, la réalité, c'est que, comme je dis aux mecs, c'est qu'on a fait une saison exceptionnelle vis-à-vis de la quantité d'effectifs que l'on avait. Et on est obligé d'en parler vis-à-vis par rapport au budget aussi que l'on avait dans cette division. Donc c'est une saison exceptionnelle. Il va surtout voilà tirer aussi les conclusions de ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de chance, qu'on n'a pas eu beaucoup de casse, que les gars voilà, on a pu leur malgré tout voilà compter sur eux toute l'année. Et surtout, voilà, ne pas se prendre pour d'autres et partir l'année prochaine. La réalité, c'est qu'il faudra se maintenir le plus rapidement possible parce que cette division, elle est vraiment homogène. Elle est homogène vers le haut. Il y a énormément de qualité. Et puis, on voit que si l'intersaison se passe pas très bien et qu'on attaque pas très bien le championnat, ben voilà, on a l'exemple quand même de certains clubs qui ont eu un peu de difficultés. Donc, ça serait beaucoup trop prétentieux et oublier finalement d'où on vient que de se dire qu'on va encore chercher la qualif de suite. Parce que je le répète, il y a 10 mois de ça, on se maintenait sur la dernière journée. Donc, il faut savourer ça, mais il faut surtout pas oublier quand même voilà, que ça peut qu'à un ou deux matchs près, la bascule peut se passer dans l'autre sens.
Est-ce qu'il va falloir étoffer l'effectif pour l'année prochaine, aller chercher d'autres joueurs, avoir un effectif peut-être aussi un petit peu plus pléthorique, justement pour faire face à l'enchaînement des matchs?
Ouais, il va falloir avoir un peu plus de joueurs en quantité. De toute façon, l'Anglet Olympique ne changera pas son créneau, c'est-à-dire que l'objectif c'est d'avoir des joueurs d'ici, voilà, que les garçons qui jouent dans les divisions inférieures, mais dont on pense qu'ils peuvent nous rejoindre, et bien essayer de leur donner l'envie, en tout cas de nous rejoindre, et peut-être qu'un ou deux jeunes, voilà, qui sont dans les structures pro aux alentours. Ben comprennent que la Nationale 2 c'est un championnat exigeant, mais c'est un championnat s'ils n'arrivent pas à basculer dans le monde pro qui peut aussi leur permettre de jouer à un excellent niveau. Donc voilà, mais il y aura pas de grands changements de toute façon à Anglet, ça sera sur la continuité de ce qui est fait depuis maintenant 2 ans
et on continuera à suivre ça avec 100% aiguille. Miguel, tu voulais intervenir avant qu'on passe à la suite?
Miguel, j'ai dit Miguel.
On a tous entendu. On réécoutera.
Un des secteurs qui était positif cette année, tu m'as parlé de la conquête avec la mêlée, avec l'apport d'une quatrième personne qui travaille dans l'ombre depuis un an, un ancien pilier.
Est-ce qu'il va continuer son travail?
Ouais, c'est vrai qu'on a parlé des trois, mais si cette année on a fait une belle saison, c'est clairement grâce à l'apport de Pascal Hidder. Ça fait plusieurs années que la mêlée était un secteur en souffrance, hein, et de par ma faute aussi, parce que les années précédentes, quand l'année dernière Yvan Abadi venait, mais vu que j'avais pas pris conscience de l'importance de travailler la mêlée, je le faisais pas assez venir pour qu'il puisse finalement mettre sa patte sur le groupe. Et cette année, Pascal nous a rejoint et il a complètement transformé l'équipe. C'est un travail qui a eu au quotidien et 25 minutes par semaine a donné de la confiance aux mecs et a totalement changé notre équipe par rapport à ça. Donc, si on a fait une belle saison, c'est clairement grâce à l'apport de Pascal Hidder qui a transformé notre groupe et qui a permis que la mêlée devienne un point neutre, voire un point fort à certains moments.
Et on suivra ça, comme je le disais à l'instant, avec grande attention dès la saison prochaine dans 100% rugby, évidemment. Et puis t'es le bienvenu quand tu veux dans cette émission, Anthony. Tu sais que t'as ton rond de serviette ici. Dans la deuxième partie de ce 100% rugby, on va se tourner vers Sébastien Rouette de l'autre côté de la table du studio pour parler d'Asparin. Cette fois, ça sera dans quelques secondes dans 100% rugby.
France Bleu Pays Basque, 100% rugby.
Un 100% rugby au casting pléthorique ce soir avec Yann Blanchard, Mickaël Guérindien, Anthony Biscay, Philippe Larue, le président de l'US Mouguer, et Sébastien Rouette, le coach de l'Asparin, ça suffit amplement.
Peut-être vous donner le nom de son futur club, on sait pas.
On va peut-être en parler justement avec Sébastien. Revenir déjà sur cette saison d'Asparin terminée pour un promu en disputant le premier barrage de son histoire. Certes, un barrage qui s'est pas hyper bien terminé en Haute-Garonne contre Grenade, on va sans doute y revenir, mais j'imagine que, comme pour Anto à l'instant, cette saison elle est plutôt belle pour Asparin, non?
Oui, bien sûr, on aurait signé dès le mois de septembre pour se maintenir et puis jouer un barrage à l'extérieur, qui plus est où on perd la 4e-3e, donc le bilan il est très positif, même si depuis dimanche on est quand même un petit peu frustré, voilà.
Contre une équipe, Grenade, pour ne pas la citer, qui avait quand même pas perdu un match à domicile de la saison, c'est pas rien non plus, Mina.
C'est ça, voilà, on leur a dit, à la fin, les garçons étaient héroïques pendant 82 minutes, il a manqué 10 secondes, la dernière mêlée, qui a été jouée, et voilà, c'est comme ça, toute la saison on a gagné 4 matchs à la 4e-2e, là c'est bien, voilà, la pièce a tourné du mauvais côté, mais on n'a aucun regret parce qu'ils ont vraiment tout donné et ils auraient mérité de faire un 16e à domicile contre Poinlon dimanche.
C'était quoi l'état d'esprit des gars à la sortie de ce match-là, justement, contre Grenade? Et après, je te passe la parole, Yann, ne t'inquiète pas.
Très déçu, parce qu'on avait peur que, on finisse 5e, on avait peur de l'autre poule, nous annoncer vraiment qu'elle était bien supérieure à la nôtre. Et on voulait prouver que notre 5e place n'avait pas été volée, donc tout donné. C'est ce qu'on a très bien fait pendant 35 minutes, où on met 13-3. Et après, on prend deux essais un peu casquette. Et malgré ça, à 4e-8e, on repasse devant. Et voilà, comme j'ai dit, il reste une 30 à jouer. On joue 2 minutes. Monsieur l'arbitre fait jouer la mêlée où on est en difficulté sur la fin de match. Et voilà, c'est la loi du sport, mais très frustré encore une fois.
Yann?
Ouais, j'allais te poser la question parce que pour ceux qui n'ont pas suivi de match, il y a un an avant, une mêlée qui jouait au-delà du temps réglementaire. Pour toi, là, quand il y a l'an avant, là, le match est terminé, tu penses qu'il est terminé?
Oui, parce qu'il dit qu'il reste une 30 et quand il siffle en avant, il y a les joueurs de Grenade qui se mettent à genoux, les mains sur la tête, les notes qui rentrent, et en fait il regarde deux fois le chrono et il fait jouer la mêlée, voilà, où il sait qu'on est en difficulté depuis 20 bonnes minutes, elle est à 25 mètres pratiquement en face, voilà, c'est comme ça, on va pas polémiquer sur une décision d'arbitrage. Mais bon, c'est dommage.
Vous vivez un peu la même saison qu'Anglette qu'on avait avant avec Anto, puisque c'était le maintien pour forcément un promu. Mais on sent quand même que toi, et j'en ai discuté avec ton frère, t'avais pris goût. Il y a beaucoup de déceptions quand même de ne pas passer ce match-là.
Bien sûr, on est tous compétiteurs. Et quand on a vu que mi-février, on était maintenu, on s'était promis à l'intérieur du groupe de garder cette 5e place, chose qu'on a fait. Et inconsciemment, en parlant avec les joueurs, on préférait jouer à l'extérieur. Parce qu'Asparin, quand il a le rôle du petit, on se surpasse. Quand on est favori Asparin, voilà, on se croit arriver et on passe souvent à la trappe. Donc là, on savait qu'on avait 15 jours pour préparer ce déplacement à Grenade. On avait bien étudié cette équipe. On a vu, voilà, c'est une équipe toulousaine. Voilà, c'est toulousain, c'est propre, ça joue bien. Mais si on les faisait, déjouer sur les phases de ruck, en déplaçant un petit peu ce ballon, chose qu'on a bien, très bien fait, on pouvait les embêter. Voilà, on l'a très bien fait, mais comme je vous ai dit, il a manqué 10 secondes.
Mickaël, tu veux intervenir?
Est-ce que cette bonne saison va te faire garder ton groupe que tu as actuellement, qui est un groupe jeune, avec 3-4 qui ont moins de 30 ans, mais est-ce que tu vas réussir à les garder?
Ben, je l'espère. C'est ce qu'on a dit, le meilleur recrutement, c'est de garder déjà tout l'effectif qu'on a. On en a deux ou trois peut-être qui veulent arrêter. Voilà, on va essayer de les faire batailler pour qu'ils restent justement et de pas repartir à zéro. On a beaucoup beaucoup de jeunes derrière. Voilà, c'est 21 ans d'âge moyen et de l'équipe c'est à 24 et demi. Donc si on arrive à garder tous ces jeunes, c'est vrai que dans 3-4 ans, ça peut faire un beau collectif. Donc le plus dur, ce sera de garder tous ces jeunes et de pas se le faire piquer à droite à gauche.
Et ça jette des regards autour de la table, évidemment. Yann, tu voulais poser une question?
Oui, moi je suis pacifiste. On a même pas rappelé que la saison d'Asperger a basculé du côté de Mouguer. Seb, du coup.
On s'en souvient.
Et toi, personnellement,
attends,
Seb.
Parce qu'il y a un Asperger Mouguer en finale régionale, on va en parler tout à l'heure.
Et toi, personnellement, Seb, une saison pareille, ça te conforte dans la vie, dans le fait que c'est fait pour toi, que t'en as envie de ce rôle de coach-là?
Oui, je partais un petit peu dans l'inconnu. En plus, je jouais avec eux il y a encore un an. Donc, est-ce que ça allait passer? Est-ce que ça allait pas avoir trop de proximité? Et je me suis rendu compte, voilà, très vite que je me régalais, quoi. Préparer les entraînements, alors c'est vraiment autre chose qu'être joueur. Mais pour une première, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que les résultats ont suivi. Donc je sais très bien que tous les ans, ce sera pas comme ça. Donc on verra aussi comment il faudra gérer ça. Mais non, je me régale. Voilà, comme je vous ai dit, le groupe est très jeune, a envie d'apprendre. Et puis derrière, on a des jeunes qui vont monter, qui sont de qualité. Maintenant, voilà, les présidents savent où c'est que nous aussi on veut aller. Donc j'espère qu'on sera entendu aussi, qu'on a besoin aussi un petit peu de renfort, même s'il y a beaucoup de jeunes, mais il faut entourer ces jeunes avec de l'expérience, chose qui nous manque un petit peu, qui nous a fait défaut, mais notamment dimanche, quoi, c'est les
20 devant 28, du coup un peu, peut-être
un petit peu devant, voilà, où on est jeune, et puis bon, quand on prend au niveau gabarit toute la saison, c'était compliqué et un petit peu comme Anglette, on a eu de la chance de pas avoir trop de casse, donc heureusement, mais si on a eu de la casse, ça aurait été compliqué et je peux vous dire que les joueurs ont fini épuisés dimanche.
Ouais. Vous avez déjà commencé à parler avec les dirigeants et tout des objectifs pour la saison prochaine?
On en a un petit peu parlé, oui. Donc on attend un petit peu leur retour, voir ce qu'ils veulent, ce qu'ils vont nous donner.
J'ai essayé.
Le petit sourire que t'as, c'est on est d'accord, t'as pas envie que Asperger stagne, t'as envie que ça évolue et que ça progresse encore.
Exactement, c'est ce qu'on a dit au président, nous, jouer le maintien à l'arrache et repartir d'une page blanche chaque année, ça nous intéresse pas. Enfin, moi plus personnellement, je suis compétiteur. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est de garder absolument cet effectif, le renforcer à 2-3 postes. On a vu qu'on avait des manques. Et les juniors qui vont monter, essayer de les aider, les faire venir petit à petit pour que dans 3-4 ans, ils soient prêts et à rester à tout prix dans cette Fédérale 2. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'objectif.
Et la Fédérale 2, on continuera à la suivre, évidemment, dans 100% rugby ou tout de suite, d'ailleurs. J'allais dire dans quelques secondes, mais non, tout de suite, on va filer du côté de Mauléon.
Toute l'actu du rugby au Pays Basque est dans 100% rugby sur France Bleu.
Mauléon, toujours en vie dans ses huitièmes de finale de Fédéral 1. Le président Beniat Kehaï nous a rejoint. Bonsoir président, bonsoir Beniat.
Bonsoir.
Et merci d'être là ce soir dans 100% rugby avec toute l'équipe autour de la table. Et un Yann Blanchard qui voulait intervenir déjà. Pas encore, tout de suite. D'abord, on va revenir sur ce match face à Gruissant dimanche dernier. Il y aura 4 points donc à remonter à Marius Rodrigo dimanche prochain pour rejoindre les quarts de finale. Tout est encore possible pour le SAM, président?
Oui, je pense que tout est possible. Vous savez, on a l'habitude de sortir des grands matchs dans les grands moments, on va dire, parce que il y a deux mois, on était encore 7e, 8e, et on a fait une remontée extraordinaire parce qu'on a aligné 6 victoires consécutives. Et je crois que la dynamique est toujours là, même si on a perdu dimanche de 4 points face à une belle équipe de Gruissant, mais avec le soutien de notre public, en considérant que c'est un très bon adversaire, mais on va essayer de les battre quand même, et de plus de 4 points.
Oui, parce que là on parle du soutien du public de Marius Rodrigo, qui sera derrière vous, et ça on le sait, ils sont là à chaque fois. Mais il y a eu aussi ce contexte un peu hostile du côté de Gruissant, justement. Est-ce que c'est pas ça justement qui a fait aussi basculer la rencontre de leur côté?
Non, pas du tout. Non. Le contexte hostile que celui des phases finales. Et vous savez, bien sûr, il y a quelques excités sur le bord du terrain, mais il y en a un peu partout. Mais sur le terrain, quand même si ça parlait beaucoup, il y a des petites menaces, des trucs comme ça. Mais ça fait plutôt partie de l'intimidation, on dira. Mais les Basques n'ont pas peur. Et ils ont peur de rien, même. Et dimanche, on va le prouver devant notre public. Objectif, bien sûr, un public objectif, je le redis, mais complètement qui adhère à notre cause.
Là, on parle de rejoindre les quarts de finale pour Mauléon à l'issue de cette rencontre face à Gruissant dimanche prochain, donc à Marius Rodrigo. Est-ce que c'était l'objectif en début de saison ou on vise plus loin du côté de Mauléon?
Non, l'objectif était quand même de faire aussi bien. Moi, on s'était vu entre joueurs et entre coach, on va dire, en début de saison. Et on s'était dit, on va qualifier les deux équipes et on va faire un peu mieux que l'année dernière, puisqu'on avait fini troisième. Et l'objectif, c'était de finir premier ou second. En étant tout à fait sincère, il me semblait qu'il y avait des joueurs capables de le faire, parce qu'il y a de très bons joueurs, des géants qui vont vite, qui comprennent tout et qui savent jouer au rugby. Donc il me semblait qu'on pouvait le faire. Effectivement, même si on a perdu quelques matchs de très peu, à la fin on a cavalé un peu plus et on a gagné les matchs pour finir second.
Et on fait tourner la parole dans les studios de France Bleu Pays Basque avec Mickaël Guérindien qui voulait intervenir.
D'après vous, les points faibles de Gruissant pour l'emporter dimanche, sur quoi vous allez, d'après vous
Moi, je dirais pas les points faibles, parce que c'est une équipe assez complète, un peu semblable un peu à la nôtre, mais qui est plus épaisse, je dirais, plus dense devant, avec deux ou trois grands gabarits. Mais voilà. Et derrière, ils ont deux gros centres aussi qui sont puissants, je dirais. Mais nous, en face de ça, on va leur mettre des gens qui savent jouer au rugby, qui plaquent à tour de bras, parce que la vaillance et le courage sont quand même reconnus à Mauléon. Et je dis qu'ils savent jouer au rugby parce que c'est des garçons techniques et qui vont vite. Donc, il me semble, moi, qu'on peut rivaliser et sans être prétentieux, passer ce tour-là.
Bon, il y aura 30 points d'écart à la fin. Quoi.
C'est le moins qu'on puisse leur demander à nos joueurs.
Et ben voilà, et ben rendez-vous dimanche à Marius Rodrigo pour assister à cette rencontre entre Mauléon et Gruissant. Oui, président.
Ah oui, avec plaisir. Venez nous voir. Mauléon est un joli village et on pratique le rugby et on est objectif autour et sur le terrain.
Et ne serait-ce que pour l'ambiance à Marius Rodrigo. Hein. Ouais, forcément.
Merci beaucoup, en tout cas.
Merci, président, et à très bientôt. On aime bien aller en saoule, nous, dans cette émission, dans 100% rugby.
Rentrez après.
18h30.
Non, juste. Ouais, en voiture.
Eh ben, nous, on enchaîne. Hein. On va passer aux infos du jour.
100% rugby, les infos du jour.
Il n'y a pas de pause hein, ce soir, on enchaîne, on y va, parce qu'il y a énormément de monde autour de la table, il faut que tout le monde puisse parler. Les infos du jour, vous en connaissez le principe, on glane des informations dans la presse et vous réagissez ou pas à ce qui va être dit autour de la table. La première info, elle va concerner le Biarritz Olympique, hein, puisque hier, l'autorité de régulation du rugby a commencé à étudier le nouveau projet du club. Les nouveaux repreneurs doivent donc prouver qu'ils ont les moyens de se présenter en Pro D2 la saison prochaine. Et on sait donc qui sont les personnes qui vont apporter de l'argent au club. Avant de vous faire réagir, on a quelques noms, les précisions de Thomas Vinclair.
Avec d'abord un homme, Pierre-Édouard Sterrin. Son nom ne vous dit sans doute rien, c'est pourtant le créateur des Smartbox, c'est coffrets cadeaux, un entrepreneur aujourd'hui 5e fortune de France avec un patrimoine estimé à 1,2 milliard d'euros. L'homme d'affaires, fervent catholique, explique qu'il n'a pas voulu voir disparaître dans l'indifférence générale le Biarritz Olympique, un club historique selon lui. Autre nom, Pierre Friedenreich, une icône dans les médias qui se présente comme un amoureux du BO. Il a été directeur de la chaîne InfoSport Plus durant 10 ans, entre 1998 et 2008. Il est enfin passé dans différentes directions, notamment iTélé, ex-CNews, Libération ou encore BFM Business.
Les précisions de Thomas Vinclair sur donc les futurs investisseurs du Biarritz Olympique. Je vous fais réagir autour de la table. C'est des noms connus parmi vous, selon vous?
Oui, alors le premier, c'est un peu bizarre, puisque je l'aurais bien vu aller avec la famille Gave juste avant, mais avec la nouvelle direction, ça me paraît quelque peu bizarre. Quand j'ai lu ça hier, j'étais très surpris. Après, aucun actionnaire n'aura au-dessus du million d'euros, donc là, quelques noms sont ressortis.
Pas de pouvoir de décision pour les actionnaires.
Je pense que ça a fuité un peu, notamment parce que le premier nommé a une fortune d'un milliard d'euros, donc on comprend que bon, c'est du solide. Et pour le deuxième, Pierre Friedenreich, bien connu des médias, Il a eu la chance d'être mon chef quand j'étais à ITL. Donc
là, je t'appelle, c'est une chance.
Donc voilà, mais moi,
j'attends
le reste. Et puis, comme j'ai dit hier, c'est un soulagement. 9 millions de budget, ça veut dire que ça va être correct pour la Pro D2.
On parle de 9 millions, 9 millions et demi.
Ouais, reste à ce que ce soit validé, mais d'après ce que disait la DNACG. Enfin, A2R, là, maintenant. Là.
L'autorité de régulation du rugby.
Ça, ils ont eu les papiers qu'ils attendaient, donc à eux de les vérifier maintenant. Mais bon, c'est un soulagement quand même de ne pas voir ce club disparaître.
Je vous fais réagir autour de la table ou on passe à l'info suivante?
C'est un coup dur pour...
Manto.
Non, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions par rapport à tout ça, mais naïvement et avec beaucoup de sympathie pour Sean Hegarty, je trouve que ce qu'il fait, c'est admirable, parce que même s'il a porté les couleurs bleues, Biarritz, c'est un club de cœur. C'est un jeune, ça reste un jeune homme qui prend un club qui est en grande difficulté. Et je sais pas jusqu'où ça va aller, mais par amitié pour lui et parce que je trouve que c'est très courageux. J'espère que tout se passera bien parce qu'il le mérite vraiment, quoi.
Affaire à suivre.
Ouais, demain normalement.
Je fais, on sait pas sûr, faut pas le dire encore.
Ouais, bah attends, je lui envoie un texto.
On va plutôt passer à l'info suivante avant que tu lâches un truc qu'on devrait pas lâcher. L'info suivante, elle concerne aussi le Biarritz Olympique de toute façon, puisque pour succéder à Matthew Clarkin, les nouveaux dirigeants du BO pensent à une petite shortlist. Une shortlist sur laquelle deux profils ressortent fortement. Il y a une piste qui mène à Pierre-Philippe Lafond, qui est actuellement en poste du comté de Montauban. Mais le deuxième, et c'est le nom qui ressort peut-être le plus en ce moment, celui de James Coughlan. C'est une information de nos confrères de l'équipe, l'ancien troisième ligne irlandais, qui a terminé sa carrière de joueur à la section paloise, en 2017. Il a déjà plusieurs expériences de coaching à Pau, à Brive, à Toulon ou encore du côté d'Aix-en-Provence. Justement, c'est un nom qui ressort de plus en plus pour remplacer Matthew Clarkin dès la saison prochaine. Est-ce que c'est un nom qui vous parle déjà autour de la table? Oula, pas du tout apparemment. C'est chaud. Yann.
Oui, ça nous parle, mais ça s'est souvent très mal passé partout où il est passé. Non, ça remet pas en cause ses qualités à lui, mais bon, je pense qu'humainement, ça doit être un peu dur. Faut voir, après, il y a eu le nom aussi du frère du sétiste, là, qui est au Stade français, qui est responsable de la formation. Bourawa. Ouais, Bourawa. Qui est à la formation, qui est plus à la formation du côté de Stade français qu'avec les pros, donc à voir quel rôle il pourrait avoir ici.
Et puis Lafond qui enchaîne pas 2 ans dans un.
Pépé Lafond qui est...
Mis à part Montauban.
Ouais, il reste un moment, ouais.
Ouais.
Il reste un moment de contrat, ils essayent quand même de le pousser vers la sortie, ouais. Ça c'est une belle sortie pour lui. Mais après, au-delà de Coughlan, il y a quand même un staff qui est en place aussi du côté de Biarritz. Donc,
le staff qui a encore un an de contrat.
Oui, voilà. Donc peut-être qu'ils cherchent surtout un encadrant, puisque leur manager part du côté du Portugal. Et puis on sait que Coughlan a fini la saison, non? A donné un coup de main du côté de Saint-Jean-de-Luz, non? Il me semble, il y a un an sur la fin de la saison.
Ouf, alors là,
oui,
info.
Tout à fait.
Oui, voilà, info. Ouais. Info, donc ouais. Il ne doit pas être loin. Donc peut-être que vu qu'ils ont travaillé en sous-marin depuis quelques temps, peut-être que la proximité de la côte basque a fait qu'ils ont pu avancer.
On passe à l'info suivante. C'est la dernière. Ça,
bah oui, mais bon, tu t'intéresses pas au rugby amateur.
Faut que tu suives un peu.
Non, moi je m'intéresse.
Parce que le pro, t'es
non,
pro.
Non, je m'intéresse au vrai rugby amateur.
Ah, mais d'accord.
National 2, si vous me dites que c'est amateur, vous revenez.
Et nous, en dessous, on pue, nous. C'est ça?
Mais non, c'est ça que je.
Ah, bon, c'est justement, c'était ça le.
En plus d'être nul, tu comprends rien. Et là, ton problème est nickel, sans déconner.
Attends, on n'est pas encore passé au qui peut battre. D'abord, une dernière info. La possible arrivée du carton rouge de 20 minutes. Là, ça commence à revenir. C'est World Rugby qui doit décider demain s'il élargit les tests de ce carton rouge de 20 minutes aux compétitions de l'hémisphère nord, ce qui a fait réagir la FFR par l'intermédiaire de son vice-président Jean-Marc Lhermey, qui a déclaré que ce carton rouge de 20 minutes, ça serait un vrai retour en arrière par rapport à la lutte contre le jeu déloyal et contre la violence dans le rugby, parce que le vrai impact du carton rouge, c'est la sanction collective, le fait que toute l'équipe soit impactée. D'accord là-dessus ou...
Bon, déjà, on n'a plus personne à World Rugby, donc c'est vrai que la décision de la FFF va vraiment peser dans les décisions.
Rappeler Bernard pour ça.
Ouais, au moins voilà. Et deuxièmement, bon, déjà qui s'applique à mettre des jaunes quand ça mérite jaune et des rouges quand ça mérite rouge. Je vais pas aller chercher plus loin. L'attentat sur Dupont dimanche en Coupe d'Europe, on a besoin de 17 ralentis pour voir que c'est un jaune, alors que bon, il n'y a pas photo, c'est rouge. Qu'on arrête de passer les images au ralenti, qu'on juge à vitesse réelle, qu'on juge la dangerosité pour le joueur et non le point d'impact, parce que le point d'impact, il peut être au torse, mais s'il remonte jusqu'à la gueule, tout aussi dangereux qu'un coup de posé sur une gorge, comme il y a quelques années à Pau. Donc voilà, qu'on s'applique déjà à ça avant de ressortir des règles de partout. Ou ça va être le même chantier, c'est-à-dire pourquoi un rouge, ça serait 20 minutes et voilà, etc. Donc ça va être le même chantier derrière. Donc déjà, appliquez-vous à bien appliquer les règles.
Et je pose la question aussi au coach autour de la table, mine de rien, comme Toronto.
Moi, c'est surtout au niveau de l'arbitre. En fait, l'arbitre, on lui a apporté la vidéo. Maintenant qu'on lui a mis la vidéo, il est pas, enfin, on ne le laisse pas l'utiliser tout seul. Maintenant, il a un arbitre vidéo qui lui explique comment il faut faire dans l'oreillette. En fait, j'ai l'impression qu'on déplace souvent le problème pour délester au maximum, finalement, l'arbitre de son jugement. Mais j'ai l'impression qu'à force de lui apporter des outils, ça le met peut-être, ça le laisse encore moins décisionnaire et ça le met plus souvent en porte-à-faux. Donc, clairement, je pense, Seb le dit, l'arbitre fait partie du jeu. Parfois, il se trompe, mais puis je crois qu'on le voit souvent. Je pense que ça s'équilibre entre guillemets. Et puis il faut prendre conscience que ce monsieur au milieu, ben il fait partie du jeu. Il y a des jours il est bon, il y a des jours il est pas bon. Et à force de vouloir l'aider, j'ai peur qu'on le perturbe plus qu'autre chose. Et voilà. Et puis prendre un carton rouge en finale, ça arrive. On a vu, si je dis pas de bêtises, c'est le Racing qui joue au Camp Nou en finale du championnat.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coachs qui
prennent carton rouge. Et finalement le Racing gagne. Donc il y a pas de vérité dans le sport. La seule vérité, c'est qu'on a besoin d'arbitres et qu'il vaut mieux les accompagner dans le bon sens et leur faire confiance plutôt que de leur taper toujours dessus.
Bon, je trouve que c'est un beau mot pour clôturer ces infos du jour aujourd'hui. Tout le monde a l'air d'accord.
Non,
bah, sauf toi, mais toi, t'es jamais d'accord. Non, mais là, on va passer au qui peut battre.
Tu joues sur Gauthier comme ça, non, pour terminer.
Il était réveillé à Bayonne,
était. Il était souriant.
Avec tes ses lunettes.
Il était souriant.
Ouais, il a bien mangé à la cantine, c'est bien.
05 59 59 17 17. Il va falloir, les amis, composer ce numéro maintenant, parce que maintenant, on va jouer le qui peut battre avec la team Yann Blanchard qui fait face à la team Mickaël Guérin-Dien et avec vous, parce qu'on a deux places à vous faire gagner pour la rencontre Aviron Bayonnais Perpignan à Jean d'Auger le 18 mai prochain. Avec ce quiz, trois questions sur l'actu, sur la culture rugby, deux bonnes réponses et c'est gagné. 05 59 59 17 17 dès maintenant. Le qui peut battre aujourd'hui, un qui peut battre qui s'annonce épique, puisque nous avons d'un côté la team Yann Blanchard, composée donc de Yann Blanchard et d'Anthony Biscay, qui est à ses côtés. Enfin, après, tu fais ce que tu veux, toi, pour le coup. Et en face de Yann, il y a l'équipe Mickaël Guérin-Dien, Sébastien Rouette et Philippe Larue. Attention, il y a du lourd en face de toi, Yann, aujourd'hui. Et on va jouer avec Peyo, qui nous appelle Durugne. Bonjour Peyo, bonsoir.
Bonsoir.
Et face à vous, Peyo, ce soir, pour vous affronter au qui peut battre, il y a Denis qui nous appelle de Boucau. Bonsoir Denis.
Oui, bonjour.
Alors je dis tout de suite, désolé Denis, c'est Peyo qui est arrivé en premier au standard, c'est donc lui qui va choisir l'équipe dans laquelle il veut se glisser. Peyo, équipe Yann ou équipe Mickaël?
Équipe Yann.
Eh ben voilà.
Mais c'est un fidèle auditeur. Ça,
il y a des gens qui savent.
Il y a des gens quand ils appellent, ils veulent vraiment gagner les places, Mickaël. Donc le choix, il est vite fait.
Et parce qu'il y a, on vous le rappelle, en jeu de place pour Bayonne-Perpignan à Jean d'Auger.
Donc bénévole, c'est ça.
Le 18 mai prochain, on a donc la team Peyo, Yann face à la team Denis, Mickaël. On est d'accord là-dessus?
Oui.
Alors on y va.
Et ton ordi?
On s'y met, on s'y met.
Est-ce qu'on laisse
attends, je regarde si
l'ordi est éteint.
Il est éteint.
Il y a intérêt, ouais. Et le tien, il est éteint d'ailleurs?
Moi, j'ai rien, moi.
Ok, c'est bon. Téléphone face contre toi.
Respecte-moi, j'ai pas besoin de ça pour gagner contre toi quand même.
Première question. Vous me laissez finir avant de répondre, évidemment. Je vous demande, quel joueur a récemment déclaré dans la presse? Deux points, ouvrez les guillemets.
Oh, ouais.
Fabien Galthié m'a dit qu'il fallait que je continue à bosser pour aller chercher le maillot, qu'il ne l'offrait pas.
Ouais, c'est bon, c'est gagné.
Je vous ai demandé.
Non, tu l'as pas dit. Tu l'as pas dit.
Je suis avec toi.
Je te promets, j'ai fait bien attention.
Est-ce que tu peux, s'il te plaît, mon cher ami Adrien, me retrouver l'extrait où je dis très clairement, vous me laissez finir la question.
Allez, Michel, 1-0.
Non.
Mais 0-1 si tu veux, mais je vais mettre les deux dernières.
Le point va à Mickaël.
Tu l'as jamais dit.
Alors, Anto est avec qui? Avec
Anto, il a dit qu'il jouait pas avec moi. Il jouait avec 1-0 pour moi.
Anto, c'est le joker.
Ça s'assume.
Anto, c'est le joker, il choisit avec qui il donne son point.
Mais toi, tu bouffes partout, toi.
Deuxième question.
C'est pour qui? Pour nous.
Pour le point va à Mickaël, on est d'accord. Deuxième question. Je vais vous demander combien d'essais ont été marqués
par le meilleur marqueur Biarro, l'ailier britannique Zach Kibirige.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Non, allez, c'est bon, bon,
allez, je suis obligé de donner le point parce qu'il y avait la bonne réponse.
Oui, elle est dedans.
C'est bon. Je viens plus. Vous avez qu'un peu le
cavalier. Tu dis ça toutes les semaines.
Nickel, quand t'as pas les outils, faut être malin. Le problème, c'est que t'es même pas malin. T'as ni les outils et t'es pas malin.
Allez, dernière question. Et en plus, tout se joue là-dessus. C'est beau ça.
Non, mais on sait même pas le résultat. On sait même pas là.
Il y a 6. Non, j'ai dit 9. J'ai dit 9.
Attends, tu vois.
J'ai envie de t'enlever le point. Je vais pas le faire.
Pourquoi ce pelou d'ailleurs?
Dernière question. Et celle-là, c'est une de mes préférées.
Ça fait partout là.
Vous vous souvenez de la dernière rencontre qui a vu le BO affronter Aix-en-Provence? C'était le 15 décembre dernier. C'était la 14e journée de Top 14. Et c'était surtout la première compo biarrotte de l'ère Simon Mannix. Et on va jouer avec le 15 de départ du BO ce soir-là. Chacun votre tour. Vous allez me donner le nom d'un joueur. S'il était présent dans le 15 de départ du BO ce soir-là, vous marquez un point. Si vous vous trompez, le point va à l'équipe adverse. Et là, c'est bon, t'as toute la règle du jeu là.
Oui, oui, voilà, gueule pas moi parce qu'il est en train d'écouter. Il t'a jamais dit qu'il fallait attendre la fin de la réponse.
Bien sûr que si.
Non, 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 pas d'appel. Pas d'appel. Allez,
je me tourne vers la team. Je me tourne vers Philippe, Sébastien, Mickaël, c'est à vous.
On commence par un centre.
Alors, Denis, évidemment, Denis peut donner la réponse aussi. T'as dit quoi?
Yann Perrault. Non, j'ai dit David.
Non, non.
J'ai dit Yann David.
Yann David est une bonne réponse.
Jonas.
Qui a répondu là?
Denis.
Denis, c'est pas votre tour.
C'est au David, il a regardé sur le téléphone, tu peux y aller.
C'est au tour de Peyo, Anto et Yann.
Ah oui, c'était là-bas. Joe Jonas, il avait joué sur
Joe Jonas est une bonne réponse en plus, qui plus est. Allez, à vous, Mickaël.
Titulaire ou dans le groupe?
Mickaël.
Les 15. C'est quoi les 15?
Calme-toi.
Dépêche-toi.
Fais gaffe à ton cœur.
Le 15 de départ, les gars, le 15 de départ. Allez, il va me falloir une réponse là.
En troisième ligne.
Comment tu dis?
Herbert.
En troisième ligne?
Non, au Callaghan.
Et même pas.
Non, il n'y était pas au Callaghan comme Herbert.
Il n'y était pas. Et regarde non plus. Et c'est donc une victoire de la team.
De toute façon, Yann Blanchard. Ça passait pas. C'est Herbert. Hein.
Et victoire de
Peyo.
Tout le monde s'en fout. Jean-Louis Herbert.
Bravo Peyo, c'est gagné.
Merci.
C'est battu Peyo.
Alors, on va y revenir au 15 de départ dans quelques instants. Avant cela, Yann, j'aimerais que tu arrêtes de faire preuve de mauvaise foi et que tu écoutes ça. Première question. Vous me laissez finir avant de répondre, évidemment.
Voilà, merci. Je suis en train de taper sur la table en même temps. Si
merci beaucoup à Adrien qui réalise cette émission.
Bravo, Mickaël.
C'est quand même une victoire pour la team Yann Peyo.
Est-ce qu'on peut cumuler les points semaine après semaine de Mickaël? Il démarre avec heure la semaine prochaine.
Ah, bah écoute. Si il est d'accord, on
est nul.
Allez, deux places pour Bayonne-Perpignan, c'est dans la poche de Peyo. Denis, il faudra revenir jouer. Hein.
Léonard n'existe pas.
On compte sur vous. Merci les gars, et encore bravo Peyo. Nous, on continue. Hein. 100% rugby revient dans quelques secondes. Et on va filer du côté de Mouguère.
18h-19h, 100% rugby. 100% rugby sur France Bleu Pays Basque.
Avec le gros casting de ce mercredi, Yann Blanchard, Mickaël Guérindien avec nous, à leur côté Anthony Biscay, Sébastien Rouette et le président de l'US Mouguer, Philippe Larue, à ses côtés également et membre de l'US Mouguer, nous rejoint en direct également Lionel Pachon. Bonsoir Lionel.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Président.
Et merci d'être là.
Bonsoir Lionel.
Ce soir avec nous, pour parler donc de Mouguer, certes, mais surtout de ces finales régionales Nouvelle-Aquitaine sur les catégories cadets juniors, que ça aura lieu ce week-end au Stade Ibusti. On en parle parce que, déjà, c'est quand même un gros événement pour ces jeunes joueurs, et surtout parce que ça va être une grande fête, en quelque sorte, aussi, du rugby basque. Parce que là, les deux finales qui vont se jouer, c'est deux derbies. Les cadets vont affronter Ustaritz, les juniors vont affronter Asparin. Tiens donc, Sébastien Rouette à côté, peut-être nous en dire un mot. Mais président, ça va être une belle fête du rugby, avant tout, avant même l'idée de compétition ce week-end ou...
Oui, c'est exactement ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un grand week-end de fête, puisque nous allons accueillir 6 finales, avec des équipes qui viennent donc du Pays Basque, vous les avez citées, mais également des Landes, et une équipe béarnaise également, puisqu'il y a 15 dégâts qui est qualifié et qui joue le samedi contre une entente Chalos. Voilà. Donc oui, on accueille 6 finales en moins de 16 ans et en moins de 19 ans, sur différents niveaux de Régional 1 ou Régional 2.
Et on va y revenir dans le détail, bien sûr, dans quelques instants. Avant, Yann, tu voulais intervenir.
Oui, l'attribution, comment ça se passe? Parce que du coup, vos cadets, vos juniors sont en finale, jouent donc à domicile. Mais je suppose que vous vous êtes placé avant de savoir que vous y seriez.
Ouais, très simplement, j'ai moi envoyé un mail il y a environ 3 semaines en mois, et du coup derrière Pascal Cazot de la Ligue m'a passé un coup de fil en me disant que ma candidature les intéressait. Mais à ce moment-là, je savais absolument pas si mes équipes allaient au bout. J'espérais, mais qu'elles joueraient à domicile, ça, par contre, je pensais même que c'était pas possible, quoi. Mais effectivement, oui.
Anto,
oui, parce qu'il paraît en plus que l'arbitre aussi qui est désigné, c'est un arbitre du club.
Non, ça va pas jusque-là. Enfin, je sais pas, j'ai pas sondé Romain Jo, mais
ça montre aussi quand même ce genre de rencontre et le fait de voir énormément de jeunes équipes basques en finale de championnat comme ça. Ça montre aussi, et comme on le disait en introduction de cette émission, j'allais dire l'excellence de la formation ici au Pays Basque. Peut-être même encore plus à Mouguère, justement, où on sait que c'est le nerf de la guerre, justement, là-bas.
Oui, alors, je sais pas, non, plus qu'à Mouguère, non, ce serait prétentieux d'avancer ça, mais en tous les cas, oui, nous, on travaille sur la formation parce que, on n'a pas le choix, hein, dans notre fonctionnement général, nous, on travaille la formation pour que nos jeunes viennent après, automatiquement alimenter, nos équipes seniors, et voilà, j'en discutais avec Sébastien Rouet tout à l'heure, Asparin fonctionne de la même manière, et on n'a pas le choix que de le faire comme ça.
Vous décririez comment le parcours de vos deux équipes, justement, jusqu'à ces finales-là, que ce soit les cadets ou que ce soit les juniors? Parce que les cadets, ils ont quand même survolé le championnat, il faut le dire aussi.
Ouais, alors les cadets, oui, ils ont vraiment survolé le championnat. Alors, je crois qu'ils n'ont qu'une seule défaite
sur toute la
phase régulière. Là aussi, en phase finale, il y a quand même des victoires avec de beaux écarts de points. Ouais, ils pratiquent un très joli rugby de mouvement et le ballon vit beaucoup, ils marquent beaucoup d'essais et ils sont très solidaires. Voilà, ils font peu de fautes aussi, ils sont très disciplinés. Voilà.
Et puis pour les juniors, c'est un effectif pléthorique. Vous êtes plus d'une soixantaine de joueurs, je crois. Il y a deux équipes en régional 1. Hein,
ouais, on a 65 juniors, donc on a donc évidemment engagé deux équipes qui ont les deux été très compétitives, hein, l'équipe 1 et l'équipe 2, puisque l'équipe 2 également s'est qualifiée pour le niveau 1 de régional, donc c'est assez...
Elle s'est arrêtée en 8e, je crois, l'équipe 2.
Ouais, elle a chuté en 8e, donc les deux équipes se sont très très bien comportées. Et comme je disais avant, dans la continuité justement, sur ces 65 juniors, il y en a 21 qui potentiellement vont venir nous alimenter les seniors la saison prochaine. Alors avec les études et les gens qui partent un peu loin, on va récupérer normalement une quinzaine quand même, donc ce qui est à chaque fois un apport important, oui, parce qu'il y a des joueurs de qualité.
Anto,
ouais, par rapport à un club comme Mouguère qui a l'habitude d'avoir des bonnes équipes juniors, cadets, là on voit que vous évoluez en niveau régional. C'est une volonté du club d'engager des équipes au niveau régional, ou est-ce qu'il y a la possibilité peut-être de les mettre sur le niveau au-dessus, ou est-ce que ça dépend de du niveau de pratique, je dirais, de l'équipe première?
Alors non, on a la possibilité de les mettre en U18 ou U16 nationaux, et c'est d'ailleurs un des objectifs concernant les juniors, puisque c'est une catégorie où l'an prochain encore on va démarrer avec plus de 60 juniors. Nous, ça nous intéresse beaucoup de retrouver ce niveau-là pour préparer les joueurs à alimenter la fédérale 2 derrière. Oui, ça nous intéresse beaucoup, mais on y a été. C'était une saison où l'effectif était un peu plus juste et on a tiré un peu des deux côtés. On avait quand même engagé deux équipes avec 50 joueurs ou 54 joueurs. Il y avait des blessures, on a eu un peu de mal à tenir et on est descendu du coup. On est en régional depuis 3 ans maintenant.
Oui, parce que quand on cite certaines équipes qui jouent aujourd'hui, la Fédérale 2, c'est un niveau quand même qui est important.
Ouais.
Et j'imagine que le pas entre junior et équipe première, même si on disait tout à l'heure qu'il y a l'équipe B qui fonctionne super bien depuis quelques années, mais c'est vrai que le niveau de pratique est quand même un niveau bien supérieur, donc il faut être prêt malgré tout à répondre à ça.
Oui, on est complètement d'accord. Donc nous, c'était vraiment l'objectif, hein, de retrouver les U18 nationaux pour encore tirer ces jeunes-là encore plus haut et tirer le meilleur d'eux-mêmes.
Est-ce une demande ou c'est vous qui la faites? La demande de monter en, ou c'est
Non, les deux finalistes de Régional 1, donc Asparin et nous-mêmes, ça y est, on évoluera. Enfin, au moins, je pense qu'on a la possibilité de refuser, mais on évoluera en U18 nationaux l'année prochaine.
Et ça, ça vous permet justement aussi d'attirer du monde. On sait que sur les dernières années, à Mouguère en tout cas, il y a eu, j'allais dire, une explosion. Peut-être pas, faut pas exagérer non plus, mais il y a eu de plus en plus de jeunes joueurs qui sont arrivés, pour le coup, de licenciés aussi en tout cas.
Oui, alors le fait d'évoluer à ce niveau-là nous permet effectivement, dans les, bon, vous parliez de clubs professionnels de proximité, notamment donc en cadet ou en crabos, lorsqu'ils ne les conservent pas dans la mercerie, où c'est plus facile de les faire venir si vous êtes en U18 nationaux que si vous êtes en régional. J'en suis convaincu.
Ah oui, vous pensez?
Ouais. Et puis après, bon voilà, il y a évidemment le phénomène copain, hein, bien entendu, mais en jouant aussi à ce niveau-là, hein, qui on va dire le second niveau au niveau national après les Crabos, vous permet de faire venir des joueurs. Ouais.
Si clairement. Les deux équipes sont qualifiées du coup pour la saison prochaine, enfin en tout cas vous montez à l'échelon supérieur, vous attendez quoi de ces finales?
Le final de dimanche là.
De dimanche, la carrière, de ce week-end.
J'attends de victoire, bien évidemment. Mais voilà, une finale, comme on dit, ça se gagne. Donc, on sait très bien que nos adversaires sont à la hauteur aussi. Hein. Les Aspendants, on les a rencontrés en brassage. En tout cas, sur les juniors, et on a gagné que 10-9. Donc,
et les arbitres arrivent la veille chez toi, c'est ça?
Alors, les arbitres, oui, on les a invités. On a un programme.
On pas juste avant ce genre de choses.
Je vais me faire engueuler si on parle de ces finales, parce que je reçois des messages. On me dit, du côté du Staritz, ça a noté qu'un petit club de Régional 2 a une équipe en finale Régional 1 KAD face à Mouguère et une équipe junior en finale Régional 2.
Absolument.
On est d'accord, on parle des Mouguère ce soir, mais il y en a d'autres.
Et bien sûr, qu'est-ce qu'on le dit, il y a les deux finales, c'est deux derbies. Les cadets vont affronter Ustaritz, les juniors vont affronter Asparin. Il y a même d'autres équipes basses, hein, qui vont jouer leur finale aussi à Ibusti, parce qu'il y a Moléon en U16 nationaux qui vont jouer aussi ce week-end, et Saint-Palais en c'est quoi, U19 régional 1, hein, aussi.
C'est régional 2, oui.
Régional 2.
De mémoire, U19 régional 2, oui.
Donc là, c'est une grande fête. On parle du rugby basque, mais comme il y a d'autres clubs aussi, c'est vraiment une grande fête du rugby tout court, j'ai l'impression, ce week-end.
Oui, nous, on attend énormément de monde avec ces clubs qui viennent de, ils sont proches, quoi. Même Mugron, etc. C'est pas très, très loin. Donc il y aura du public. On a déjà des parents qui nous appellent, qui veulent faire des grillades, etc.
Et effectivement, voilà. C'est vrai qu'on a Lionel Pachon qui est avec
nous. Ouais, Lionel, on va te laisser parler.
Désolé, Lionel. Merci.
Je suis toujours là.
On est là, on discute entre nous, et c'est vrai que bon, c'est compliqué de donner la parole à tout le monde.
Comment vous allez, Lionel? Aussi, on sait jamais. Et si un jour les futurs présidents du club.
C'est à vous que je vais donner le mot de la fin, pour le coup. Quel conseil vous donneriez aux jeunes joueurs pour aborder au mieux ces finales qui vont arriver ce week-end?
Eh bien, déjà, c'est jouer une finale, on retient que le champion, donc il faut la gagner, et qui plus est à domicile. Et pour les juniors, bon, on avait déjà fait un cadeau à Sparer en senior, donc j'espère qu'ils le feront pas en junior. Voilà, et après, pour revenir sur les cadets, juste, voilà, en cadet, on avait quand même deux équipes aussi, mais c'était un groupe, donc c'est un groupe là qui est en finale, donc on était 46 licenciés en cadet, donc c'est un peu juste, on a eu des week-ends très difficiles. Voilà, ces finales, c'est très beau, mais on a passé des week-ends où on jouait à 16 d'un côté, 16 de l'autre, avec une équipe 2, avec des matchs compliqués, et je pense que c'est l'apothéose que cette équipe 1 qui performait et qui a performé avec une défaite, comme disait Philippe, soit en finale, et j'espère qu'ils vont gagner à Ibusti dimanche, quoi, voilà.
Bon, vous savez quoi, il y a quand même eu un petit tir pour Asparin, donc je vais laisser la dernière phrase de cette émission à Sébastien Rouette.
Non, tu disais que tu nous avais fait un cadeau en janvier, nous en avons fait un aussi en vous laissant un petit panneau à l'entrée d'Ibusti, donc donc voilà, donc dimanche on espère pas vous faire un deuxième cadeau. Voilà,
dimanche.
Voilà,
ça va être une grosse fête ce week-end à Ibusti. L'US Mouguère accueille les finales régionales Nouvelle-Aquitaine cadet junior, 4 matchs le samedi, 3 matchs le dimanche, et bien sûr qu'il y aura du monde pour mettre de l'ambiance. Merci beaucoup à vous tous d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
Merci,
bienvenue dans le studio. Merci beaucoup Lionel. 100% rugby revient demain, bien sûr, même heure, même endroit. Ciao.